Alors, moi j'ai une question de peut-être de sociologue, c'est-à-dire que là, le philosophe c'est peut-être normal, mais considère des publics homogènes, des catégories relativement homogènes, c'est-à-dire les écologistes, les populations, etc. Et on peut imaginer que les effets du catastrophisme puissent être différents lorsque l'on descend un petit peu en spécificité au sein de ces différents publics, au sein de ces différentes catégories, tant dans ceux qui portent les questions écologistes que ceux qui sont confrontés à des questions de gouvernance, des questions de vie quotidienne, etc. Donc des publics très différents, mais qui peuvent prendre en compte, prendre en charge ces approches-là de manière très différente. Tant pour s'en servir d'instruments de gouvernement que aussi d'appréhension, y compris d'interprétation, disons, de ces thèses catastrophistes dans une vie quotidienne, une biographie, etc.
Donc vous voulez dire peut-être par là que même si c'est philosophiquement utilisable, ce schéma apocalyptique, peut-être que face à certains publics, il ne serait pas mal entendu, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que on peut imaginer des publics fragiles, et on connaît aujourd'hui, disons, la fragilité des publics dans les périodes de crise. Et donc, dans quelle mesure, indépendamment de ce que vous avez dit, cette approche catastrophiste peut démobiliser ces publics fragiles, justement parce qu'on est en période de crise.
Il y a le travail de Luc Sebaille, que vous avez peut-être lu, que je trouve passionnant. Alors, c'est une question que je me posais. J'ai pensé à cette approche. Et il fait remarquer que ce type de discours apocalyptique, catastrophiste, parce que pour moi, il n'y a pas de différence. On travaille sur les mêmes objets avec le catastrophisme. Il a fait remarquer que dans les mini-militants, ça n'avait aucun effet démobilisateur, bien au contraire. Et je cite d'ailleurs dans le livre, je parle en train de faire ça assez facilement, l'endroit où il le dit, c'est ce que Catherine Larère a dit en temps de catastrophe, d'urgence, etc. Il n'est plus temps de discuter. Et Luc Sebaille démontre que c'est exactement le contraire. Au contraire, ça a ouvert des débats, ça a ouvert un espace pratique de discussion.
Sauf que son terrain, c'est justement les militants.
Ouais.
Voilà. Et donc moi, la question que je pose, c'est quid de justement des autres publics?
Oui, ça probablement vous avez raison, parce que les effets démobilisateurs. Voilà, absolument.
Enfin, je pose la question.
Vous croyez pas?
Moi, ça dépend. Ce que montrent par exemple les expériences en psychologie sociale, c'est qu'il faut à la fois un discours réel de la situation et donc catastrophiste et une proposition alternative. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi, c'est beaucoup de propositions, des alternatives, clairement, puisqu'on voit qu'elles ne sont pas adaptées au système industriel qui arrive en bout de course. Et donc, c'est là où peut-être le bas blesse, c'est que de vraies alternatives, les gens hésitent encore, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Et pour moi, c'est là où il y a effectivement un gros travail à mener, montrer qu'il y a quand même des alternatives, non pas des solutions, mais des alternatives, c'est-à-dire qu'on sort d'un système, c'est le principe de la transition, passage d'un point A à un point B, et donc qu'on est dans un autre système. Donc il faut nourrir les jeunes pousses qui sont aujourd'hui présentes et qu'il faut simplement les bouturer peut-être pour faire naître un système nouveau.
Et faire la médiation. On a travaillé notamment avec Luc Sebaille sur la sobriété énergétique à partir des situations de précarité énergétique. Donc on a construit une réflexion avec des associations de précaires, etc. Donc c'est un public fragilisé au sens social, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, comme Luc l'avait montré sur les militants, dès lors que les questions sont posées explicitement, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus maintenir un degré d'accès à l'énergie abondante comme on l'a connu, ou comme la société nous dit que ça devrait être fait. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont déjà en situation de précarité? Eh bien, à la fois le dialogue s'engage relativement facilement, et des solutions peuvent émerger, puisqu'on n'est plus dans un imaginaire de rattrapage. Grâce aux politiques de redistribution, on va pouvoir rattraper cet équilibre-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on ne leur demande pas d'accepter leur situation précaire. On explique pourquoi cette situation de précaire, finalement, est quelque chose qui va devoir être renégocié, puisque la norme de consommation énergétique va devoir baisser pour tout le monde. Donc, finalement, comme l'avait dit un précaire, il dit « nous, on est des précurseurs ». Oui, non, enfin, pas vraiment comme ça qu'on doit voir la chose, mais effectivement, on est dans une situation de décalage qui est inacceptable socialement, parce que nos référentiels de l'équité sociale considèrent que tout le monde doit consommer de l'énergie, dès lors que la situation écologique impose la contraction de la consommation énergétique, eh bien on va devoir réorganiser cette question de la répartition. Et là, effectivement, je rejoins parfaitement ce que tu as dit, dès lors qu'on accepte de dialoguer à partir de référentiels qui sont plus ceux de l'abondance énergétique. Et donc, il n'y a pas de question publique. Ça ne marche pas. Les seuls qui ne veulent pas entendre parler de ce dialogue, c'est les décideurs publics. Et notamment les hommes politiques. Même écolos. Ils mobilisent le registre de la catastrophe, comme tu l'as dit, mais par des effets de juxtaposition et de dissociation des idées entre elles. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur l'idée qu'il y a une urgence écologique, mais qui est un peu générale. Dès lors qu'on parle de précaire, ils refusent d'associer l'idée de l'urgence écologique par rapport à la précarité énergétique. Il faut toujours le rattraper, même les écolos. Donc on voit bien que les plus proches, entre guillemets, de la mobilisation de la thématique catastrophique, qu'ils font dans leur discours politique, mais ils refusent de l'associer aux questions sociales, par exemple. Il y a toujours cette idée que l'urgence écologique doit être dissociée de l'urgence sociale. Donc, ce n'est pas une question, encore une fois, l'acceptabilité, c'est simplement toujours une réflexion sur la méthode. On peut faire accepter n'importe quoi, dès lors qu'on a les bons outils méthodologiques, le bon cadre cognitif, un bon imaginaire de projection, je pense qu'elle a... Tu reviendras là-dessus, un bon imaginaire qui fait que on va accepter beaucoup de choses. Et là, la même manière que ce que tu as montré, c'est que même l'imaginaire le plus improbable et le plus réactif à la catastrophe écologique peut être une base de négociation acceptable. Dès lors qu'on pose vraiment des questions, et pourquoi on les pose comme ça, etc. Avec toutes les limites que tu as bien évoquées. Avec une limite importante, beaucoup de ces précaires sont dans des réseaux associatifs professionnels. Donc, ils sont eux-mêmes sensibilisés à l'idée que leur identité ne fonctionne pas simplement par leur construction consumériste, qu'il y a d'autres sens. Cette question de sens que tu n'as pas évoquée, qui est vraiment importante. Ouais. Il faut se projeter dans un imaginaire positif, c'est un autre royaume. Et là, c'est vrai que votre royaume, il n'est pas forcément très attractif au sens du référentiel de la norme, de ce qui est le confort, par exemple. C'est les travaux des Elbetchov qui sont extrêmement intéressants là-dessus. Donc, comment baisser le confort sans perdre le sentiment d'être pleinement acteur d'une société comme la nôtre. Pas évident, je trouve.
Mais à ce moment-là, pardon.
Non.
Est-ce que vous avez travaillé en dehors des aspects bombes atomiques sur l'accident nucléaire de type Fukushima qui, vous savez sûrement, le discours des autorités nucléaires en France a quand même bien évolué, notamment grâce au fameux précédent Tchernobyl et Fukushima, pour citer les principaux. Au départ, on parlait d'accidents complètement improbables. D'ailleurs, tout était indiqué dimensionnement. Puis ensuite, quand ils ont vu qu'il y avait commencé à avoir des accidents, ils ont parlé hors dimensionnement. Enfin, quand on regarde toute la trajectoire du dossier nucléaire. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez regardé aussi les discours en matière d'accidents nucléaires qui pourraient... Et Dieu sait si la presse en ce moment est assez riche à ce niveau-là, et pas que la presse, également les scientifiques, sur l'accident nucléaire en France, donc d'improbable et passé à probable, et même maintenant possible, et devant d'être préparé. Est-ce que vous avez regardé un petit peu cet aspect-là ?
Non, pas vraiment. Je me suis intéressé quand même à cette littérature. Alors, j'ai fait un élargissement et une réception. Un élargissement, c'est que je me suis tourné vers l'imaginaire apocalyptique de toute l'histoire de l'humanité, au fond, sans limiter mon enquête à l'apocalypse biblique, mais en ouvrant sur tout ce qui a pu être écrit à un moment ou à un autre sur le thème de la fin du monde et de l'humanité. Et donc, si vous voulez, le tremblement de terre de Lisbonne, ça faisait partie des choses qu'il a fallu que je relise. Toute la littérature de science-fiction, la littérature post-apocalyptique, voilà, je me suis tourné vers tout ça, vraiment de l'origine l'humanité jusqu'à maintenant, et donc la bombe atomique, ça en fait partie. Donc j'ai élargi considérablement la perspective pour essayer d'interroger cet imaginaire à propos du occidental, et en même temps, il fallait bien que je restreigne, parce que j'ai quand même pas, c'était ingérable, quoi. Et je me suis limité au discours philosophique, essentiellement, et donc ces discours-là, les discours des politiques, je ne l'ai pas considéré. Discours philosophique parce que j'ai estimé que c'était le discours qui était sur le plan théorique le plus élaboré. Et si j'arrivais à trouver des équivalences, cette fois-ci, les équivalences peut-être étaient significatives. Parce que le fait de trouver une équivalence, c'est ce qu'on m'a dit parfois, c'est une objection qu'on m'a faite, on m'a dit, mais tu sais, tu peux trouver des équivalences, des analogies, des caractéristiques communes, entre tout, quoi. C'est facile, tu prends un discours, tu vas trouver un écho, etc. Oui, mais chez les philosophes, on espère que les éléments grâce auxquels ils construisent leur discours sont des éléments maîtrisés, des éléments qui sont concertés. Et du coup, la présence d'une équivalence chez eux est peut-être significative. Par conséquent, je ne me suis pas tourné vers ces discours-là, qui n'étaient pas pour moi utilisables, les discours des journalistes, des politiques, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, j'aurais deux questions assez différentes, quoique... est-ce que ça s'adresse principalement à l'Occident, et ou est-ce qu'on a aussi le même type de discours en Extrême-Orient?
Alors,
ça c'est la première. Ouais. Je vous donne la seconde tout de suite. Quid des générations qui ont 15 ans maintenant en Occident, donc qui sont dans cette culture un peu apocalyptique et dont ils entendent parler, mais nous on est dans une génération qui n'avait pas le numérique, visiblement il y a des changements même cognitifs qui apparaissent. Est-ce que vous pensez que ceux donc, qui ont 15 ans maintenant, c'est-à-dire c'est presque deux générations après nous, enfin après moi en tout cas, est-ce qu'ils vont avoir la même approche, est-ce qu'ils vont avoir la même sensibilité, ou est-ce qu'ils vont pas dire, ben, se rendre compte qu'on est en pleine transition, puis qu'ils sont en train de sortir de la transition par exemple?
Je commencerai par la seconde. Je suis prof depuis 20 ans. Des élèves de 15 ans, je n'ai plein tous les ans, plus d'une centaine. Et ce qui m'a vraiment frappé, je suis tombé des nues de voir cela. Ils sont passés, en tout cas ceux que j'ai, ceux avec lesquels j'avais discuté, sont passés mais complètement à travers de toutes ces questions. La crise écologique ne signifie rien pour eux. Peut-être que je tombe vraiment sur des élèves pratiquement débiles, je ne sais pas. Ils sont sensibles à la question animale, ça vraiment, je vois. Certes, ceux qui s'orientent vers des études de philosophie parfois font des recherches dans ce domaine-là, mais l'écologie, ça leur passe au-dessus de la tête. Pour moi, il est bravo tôt, genre. J'ai travaillé à introduire en France, je ne suis pas le seul, mais j'ai travaillé aussi l'éthique de l'environnement, ce courant anglo-saxon, et l'éthique animale. Eh bien, maintenant que l'heure des bilans doit être faite, je peux constater que c'est un échec complet. L'éthique de l'environnement, aucun écho. Ils ne savent pas ce que c'est. Alors que l'éthique animale, oui. Donc voilà, c'est juste mon expérience personnelle, mais je suis frappé par ça. J'ai un exemplaire à la maison, là, dans ma fille a 13-14 ans. L'écologie, elle s'en fout éperdument. C'est un discours, c'est du bavardage, mais ce n'est pas une réalité.
J'ai la même impression.
C'est frappant. Ouais. Alors bon, peut-être, pour une fois, je n'ai pas de bol. Hein. Je ne rencontre pas les gens qu'il faut, mais. Non, je crois que.
Malgré la littérature post-apocalyptique pour les adolescents,
c'est du bavardage.
Pléthore de fausses animations en film anglo-saxon, ou même des séries, des films surtout.
Ils trient leurs déchets, ils prennent le vélo, vous voyez, ils sont contents. Ça s'arrête. Bon, encore une
fois. Et la première,
hein? Alors la première, j'ai essayé, évidemment, je me suis senti débordé par le chantier que j'étais en train d'ouvrir, et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas essayer de faire une petite incursion hors de l'Occident, effectivement. Et j'ai réussi à un moment, grâce au mythe du déluge, j'ai tout un chapitre sur le déluge, parce que ça m'intéressait, je trouve que c'est une métaphore vraiment constructive, constitutive d'un certain discours écologique. Par le mythe du déluge, là j'ai touché à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'universel, puisque vous savez, on la retrouve partout dans le monde, avec une telle fréquence, un niveau de diffusion tellement hallucinant qu'on ne peut pas supposer qu'il y a une influence d'un peuple sur un autre, d'une civilisation sur un autre. Non, c'est vraiment une idée éternelle, quoi, qui jaillit dans l'esprit humain. Et là, cette fois-ci, je couvre le monde entier et toutes les cultures imaginables avec ce mythe du déluge qui se construit de la même manière dans toutes les cultures du monde. C'est quand même fascinant, quoi. Donc voilà, là j'ai touché à quelque chose qui sort de l'Occident, mais c'était la seule fois.